dans l'émission Le quart d'heure bien-être. Hélène Bénard au micro. Aujourd'hui, nous allons parler d'ostéopathie avec Jacques Surlot. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter votre parcours et ce qui vous a conduit à devenir ostéopathe ?
Oui, bonjour. Alors, avant d'être ostéopathe, j'étais kinésithérapeute, ce qui était un parcours un petit peu obligatoire dans ma génération d'ostéopathes, puisqu'on ne pouvait pas faire une formation d'ostéopathie ab initio après le bac. Alors, une formation de kinésithérapeute qui a été totalement fortuite, en fait, parce que j'étais dans un autre cursus. Je faisais de la chimie, de la biochimie. C'était un cursus qui était pour moi passionnant intellectuellement, mais à une époque où j'étais intéressé surtout par le sport, par le fait de pouvoir m'exprimer physiquement, j'avais peur de m'étouffer dans mon parcours universitaire. Et là, j'ai rencontré des personnes qui allaient s'inscrire pour le concours de kinésithérapie, métier que je ne connaissais pas vraiment. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas ce métier-là, puisque c'était un métier qui me permettait à la fois d'être dans des milieux plus ouverts et qui me correspondait peut-être davantage et qui correspondait davantage à qui j'étais à l'époque. Et la chance que j'ai eue, c'est que dans ma formation de kiné, à l'hôpital, mes maîtres de stage étaient tous kiné-ostéopathe ou en cours de formation d'ostéopathie, ce qui fait que là, j'ai vraiment découvert complètement une profession que je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout, et qui d'emblée m'a complètement fasciné, passionné, des gens qui m'ont appris, au-delà de ma formation de kiné, qui m'ont appris à lire les dossiers, à poser les mains, à avoir une autre réflexion sur le corps en mouvement, le corps vivant, le lien. Voilà, une vision plus ouverte peut-être de la santé. Et c'est ce qui m'a donné le goût, après ma formation de kiné, de me diriger vers une formation en ostéopathie.
Alors justement, en quoi le métier d'ostéopathe diffère-t-il du métier de kinésithérapeute ?
Oui, c'est quelque chose qui est un petit peu flou justement pour les patients, parce que comme je vous le disais, beaucoup de kinés sont à la fois kinés et ostéopathes, du coup les patients s'y perdent un peu. En fait, le kinésithérapeute travaille sous prescription médicale et en répondant à une convention professionnelle et à un certain nombre d'actes qui sont référencés. Et donc le patient, dans son parcours, va voir le médecin qui prescrit des séances de kinésithérapie et secondairement, donc le kinésithérapeute applique un certain nombre de techniques en fonction de la prescription médicale. Donc il y a tout un volet de la prise en charge qui passe par le parcours du médecin, le passage obligé chez le médecin. L'ostéopathe, lui, reçoit le patient en première intention, c'est-à-dire qu'il doit faire ce qu'on appelle un diagnostic d'exclusion, qui n'est pas un diagnostic médical, mais qui est un diagnostic qui permet de dire, voilà, ce patient, je peux le prendre en charge et de décider quel va être le type de traitement et comment il va accompagner ce patient. Donc, quelque chose déjà dès le départ de très différent du kinésithérapeute. Chez le kiné, il y a tout de même une notion de répétition de séance. C'est-à-dire qu'on va vous donner, par exemple, 15 ou 20 séances et vous allez faire 2 ou 3 séances par semaine. Et ce qui est tout à fait adapté, d'ailleurs, pour le renforcement musculaire, pour la prise en charge de certaines pathologies. Alors que le SEPAT, habituellement, voit le patient une fois et revoit le patient, hormis dans les cas très aigus où il faut parfois une prise en charge plus rapide, mais renvoie le patient beaucoup plus à distance. C'est comme si la séance venait pour réinformer le corps, et à partir de là, le corps lui retrouve son mode de fonctionnement. Donc vraiment un état d'esprit différent. Un point qui est un point essentiel par rapport à l'ostéopathie, est une approche holistique, c'est-à-dire qui prend l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire, vous venez voir l'ostéopathe pour un problème de lumbago, pour un problème de cheville, mais pour autant, il va essayer de prendre vraiment l'individu dans toutes ses facettes, au niveau psychologique, physique, alimentaire, fonctionnel. Il va essayer vraiment de prendre l'ensemble de la personnalité et de la personne dans son fonctionnement pour comprendre comment mieux l'accompagner pour récupérer.
D'accord, donc ce n'est pas uniquement un objectif de rééducation,
non,
comme en kinésithérapie.
Voilà, exactement.
D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser les indications majeures pour lesquelles les gens consultent?
Alors, c'est quelque chose qui peut être extrêmement variable d'un praticien à l'autre. Parce qu'actuellement, on a quand même beaucoup d'ostéopathes, même s'il y a toujours cette vision holistique, c'est global, qui ont des consultations très liées à ce qu'on appelle la biomécanique, c'est-à-dire des problèmes vraiment plus structurels. Alors là, ça va être vraiment des indications en rapport avec des traumatismes, des faux mouvements, des lumbagos, des torticolis, des lombosciatiques, ce que les gens voient le plus communément. Après, on peut avoir des indications beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes, avec des praticiens qui ont l'habitude de travailler notamment en viscéral, avec d'autres types de techniques, ce qui peut amener des patients aussi bien pour des problèmes de côlon irritable, des problèmes d'ulcères, des problèmes de stress, d'anxiété, des problèmes de sommeil, chez les enfants d'otite. Donc ça peut être très 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 vaste, mais bon, après on peut aller voir plusieurs ostéopathes, on va avoir à chaque fois un champ d'application qui va être plus ou moins vaste en fonction du parcours et des connaissances de cet ostéopathe qui va pouvoir aborder vraiment de différentes choses.
Oui, puisqu'en fait il y a différentes approches en ostéopathie.
Oui.
Suivant la sensibilité de chacun, ça va être différent.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a différentes approches en ostéopathie. Il faut savoir que dans la formation en ostéopathie classique, telle que donnée par les écoles qui ont un agrément, on a un panel de connaissances en sortant des études qui est très large, très vaste, hein, où on apprend un peu tous les types de techniques, passant par les techniques dites structurelles, quand on fait craquer en quelque sorte les articulations, des techniques myofasciales, des techniques réflexes, des techniques crâniennes, viscérales. Vraiment, l'ostéopathe qui sort de l'école a vraiment dans sa besace eu vraiment beaucoup de techniques, beaucoup d'approches différentes qui lui permettent, lui, en fonction de sa sensibilité, après de développer sa propre pratique. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, chaque ostéopathe pratique son ostéopathie dans le respect d'une tradition, mais malgré tout, chacun un peu sa façon de faire. On parle bien d'art médical, il y a un art ostéopathique, c'est vraiment comment on va métaboliser, comment on va intégrer cette formation de base, mais qui est déjà extrêmement riche, qui permet à chacun de trouver sa place et sa façon de faire.
D'accord. Et en fait, il y a des touchés, j'imagine, qui sont différents pour les manipulations, pour tout ça.
Oui. Bien sûr, c'est-à-dire que, encore une fois, chacun en fonction de sa sensibilité, le SEBAT va avoir plus de facilité à aborder tel ou tel type de technique, ou même au-delà de la sensibilité, parce que je pense que, quelle que soit la technique, il faut une immense sensibilité, développer une perception tout à fait particulière, que ce soit aussi bien dans le structurel que dans des techniques plus fluidiques ou fonctionnelles. Je pense que on a véritablement une multitude d'approches et une multitude de façons de faire. Et qui sera adaptée à différents types de patients.
D'accord, et la sensibilité se développe au fur et à mesure, en fait.
La sensibilité se développe, se travaille.
D'accord.
C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir une certaine... Parce que souvent, les patients demandent, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un don? Est-ce que c'est une facilité, etc. Je pense qu'il faut avoir certaines compétences de base, mais après, c'est un travail énorme. C'est une sensibilité qui se développe au jour le jour. Pendant des heures et des heures, vous êtes là à essayer de percevoir, ressentir. Évidemment, votre sensibilité va se développer, s'affiner au fil des années. C'est pour ça que l'expérience est importante. Je connais votre passion pour la danse et vous le savez bien, il y a des compétences chez les danseurs de base. Certains vont pouvoir devenir danseurs, d'autres pas, parce qu'ils n'ont pas ces compétences-là. Mais après, c'est un travail énorme du quotidien.
Alors justement, vous parliez tout à l'heure de sensibilité. Quelles sont les qualités qui sont importantes pour exercer le métier d'ostéopathe?
Alors déjà, je dirais de la patience. De la patience, parce que comme on le disait tout à l'heure, il faut passer des journées entières à essayer de ressentir quelque chose. Et honnêtement, au début, on met les mains, on se dit, ok, on nous a dit que ça bougeait, bah, on y passe quand même un certain temps avant de véritablement ressentir quelque chose. Donc pour moi, de la patience. Après, vraiment une remise en question de chaque jour. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, il y a plein d'orientations en ostéopathie, plein de tendances, plein de courants, il y a des maîtres dans certains domaines, etc. Eh bien, il faut pouvoir se remettre en question personnellement et par rapport aussi à ce qu'on nous a enseigné pour pouvoir progresser et développer sa propre façon de faire, sa propre technique. Et donc ça me paraît clé, un point clé. Et puis, une grande persévérance par rapport au fait d'apprendre. Parce que, on dit l'anatomie, il faut l'apprendre et l'oublier au moins 7 fois. Je pense qu'il faut beaucoup plus que 7 fois. Et je pense qu'il faut y revenir en permanence. L'anatomie, l'anatomie, c'est ce que prônait le maître de l'ostéopathie, Endothelin-Steele. Voilà, il faut véritablement venir sur ça, l'anatomie, la physiologie. Revenir sur les fondamentaux. Et ça demande voilà, vraiment une grande patience, une certaine rigueur, mais en même temps, on y prend énormément de joie.
Et il faut également avoir de bonnes connaissances en psychologie.
Alors, comme on le disait tout à l'heure, l'ostéopathie est une approche holistique qui prend l'individu dans sa globalité. Il est vrai que le patient vient souvent avec sa douleur, voire sa souffrance. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et évidemment, il faut pouvoir l'aborder. Chaque patient est différent. Le vécu par rapport à la problématique va être différent. Et donc, effectivement, il faut pouvoir développer des connaissances, des compétences au niveau psychologique et une dimension d'humanité, si on pourrait dire, pour ne pas rentrer dans une pratique particulière, vraiment une écoute de l'être. Quand on parlait de la perception, le corps lui vient raconter son histoire, le corps vient exprimer quelque chose de l'être profond, et donc il vient l'exprimer sans détour. Le patient se pose sur la table avec son histoire et qui vient s'exprimer. Et donc l'ostéopathe, au travers de la perception, doit arriver à ressentir cela, et en même temps, cela doit être étayé par certaines connaissances, effectivement, en psychologie. Et c'est vrai qu'on ne va pas aborder de la même manière un enfant, une personne très âgée, quelqu'un de déprimé, quelqu'un qui a un vécu traumatique terrible. Évidemment, on ne va pas utiliser les mêmes mots, on ne va pas toucher de la même manière. Et donc, oui, il faut aussi pouvoir mettre en place cette dimension-là.
Donc, il faut développer aussi son intuition à travers le soin.
Alors, son intuition, oui, c'est vraiment pour moi, le terme de perception est quelque chose de véritablement essentiel. C'est-à-dire qu'on pense souvent que l'ostéopathe va travailler uniquement à travers du toucher, la palpation. C'est un petit peu ce qu'on développe dans les premières années et ce qu'on a développé aussi quand on est passé par le cursus kinésithérapie, c'est-à-dire qu'on nous apprend à toucher. Et puis petit à petit, on se dit, voilà, mais en même temps, le toucher, c'est une chose, mais peut-être qu'il faut que je puisse utiliser tous mes sens pour pouvoir ressentir le patient. Et petit à petit, on va au-delà des sens, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sentir à travers. Et effectivement, avec toute cette tonalité, comme si tout se rassemblait, et comme si c'était plus un seul sens, plus uniquement la palpation, mais qu'on allait appréhender l'individu véritablement. De façon du coup complètement traditionnelle dans sa globalité. Et donc voilà, on va avoir une part d'intuition, mais qui va rassembler en fait toute une foule d'informations issues évidemment de nos sens, de nos connaissances, de ce que le patient va nous dire, comment il va bouger, comment il va respirer. Et effectivement, on va développer quelque chose de cet ordre-là, qu'on pourrait qualifier d'intuition, mais étayer énormément de beaucoup d'éléments. Voilà.
Eh bien, merci Jacques Churlot pour cet entretien. Donc, c'est la fin de cette émission. Pour retrouver les coordonnées de Jacques Churlot, vous pouvez vous rendre directement sur le site de la radio www.radiograndciel.fr.
Merci beaucoup.